Signora Dante, c'est l'émission pour écouter et lire l'Italie.
Fantasiosi et più pieni di desiderio di superarsi.
Je suis Marie-Antoinette Lenzi.
Je suis Francesco Terzi.
Et nous travaillons au Centre culturel italien Dante Alighieri.
E così non hai soprattutto parlato agli altri.
Laura Dante.
Dans cette émission, nous vous ferons voyager à travers les différents genres littéraires pour découvrir des pépites.
Questa culturazione sta distruggendo in realtà l'Italia.
À chaque fois, nous serons accompagnés par des écrivains et des spécialistes du monde des lettres en Italie.
Et sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato per un amore nuovo.
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro ad altri e da se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
Nous venons de lire « Non chiederci la parola » di Eugenio Montale, présent dans le recueil « Ossi di seppia » publié en 1925. Eugenio Montale est peut-être le plus célèbre avec Pierpaolo Pasolini, poète contemporain en Italie. En tout cas, c'est vraiment présent dans les livres d'école, au lycée, on l'étudie aussi parce qu'il a reçu le prix Nobel pour la littérature. Et c'est une figure d'intellectuel qui a vraiment, qui est à cheval entre deux générations. Entre la génération des pères, les poètes qui font... qui sont la référence vraiment pour la poésie du siècle dernier et la nouvelle génération de poètes dont nous venons de parler donc à partir de 1968. Je me rappelle très bien mon premier cours de poésie contemporaine à l'université. Le professeur Guido Mazzoni, il s'adresse à l'amphi et il dit donc à toute cette énorme classe de jeunes étudiants de littérature italienne, donc des passionnés de littérature et de poésie, il dit « Qui entre vous a déjà écrit un poème ?» Et tout l'amphithéâtre lève sa main. Et après il demande « Qui de vous pour me nommer cinq noms et prénoms de poètes contemporains ?» Et personne a levé la main. Donc Eugenio Montale représente un peu cet intellectuel qui a eu un rôle important dans la société. Était un peu les poètes, en tout cas pour, jusqu'au 1950. Et après, il y a une dégénération de la figure du poète. La poésie, maintenant, elle est popularisée. Tout le monde, entre guillemets, peut écrire des poèmes, mais on le lit très peu. Est-ce que peut-être Flaviano, si nous sommes aujourd'hui avec Flaviano Pisanelli, qui est professeur des universités en études italiennes contemporaines, nous sommes ravis de l'avoir parce qu'il est spécialiste de poésie contemporaine, de Pasolini, d'Alda Merini, mais aussi de la poésie contemporaine italophone. Donc j'adresse cette question à Flaviano Pisanelli.
Ben merci, Sonietta, pour cette question qui, effectivement, oui, tu dis une grande vérité parce que quand on va dans une librairie aujourd'hui, par exemple, on cherche le rayon poésie, appelons-le comme ça, on est confronté souvent à une petite étagère de 4 étages maximum, de 50, d'un mètre et demi maximum de largeur. C'est vrai, il y a cette disproportion entre la pratique de la poésie et la lecture. de la poésie, c'est-à-dire entre l'auteur et le lecteur, effectivement. Souvent, les jeunes poètes, quand je parle de jeunes poètes, je parle des poètes qui ont 30-40 ans, parce que, voilà, c'est... Et ils se lisent entre eux, souvent. Ou alors, il y a le grand travail de diffusion des revues, parce qu'il y a quand même, en France, mais en Italie aussi, une réalité très, très féconde au niveau de la diffusion de la poésie à travers des débats qui sont alimentés dans des revues spécialisées. Et c'est vrai que Montale reste moi aussi le premier cours à l'université de littérature italienne contemporaine, c'était sur Montale. Donc ça veut dire que effectivement il a marqué, mais comme je le disais tout à l'heure, il a marqué parce qu'il est fortement ancré aussi à l'histoire italienne, et il a alimenté aussi les mouvements, les mouvances poétiques successives, parce que par exemple, bon, si on pense, j'avais déjà cité l'hermétisme, mais il y a certains recueils de Montale, bien entendu pas tous, hein.
Est-ce qu'on peut expliquer les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est l'hermétisme en deux mots?
L'hermétisme en deux mots, c'est une mouvance, parce que ça n'a jamais été une école, effectivement, reconnue. C'est la critique qui a donné cette étiquette. Donc les poètes qui en faisaient partie, ils se dénommaient pas, ils se nommaient pas hermétici. Et c'est un mouvement qui se développe entre les deux guerres, autour de deux revues florentines. Donc c'est Florence, le centre d'irradiation, et on l'appelle hermétique parce qu'effectivement c'est une écriture qui se développe sous le fascisme, et donc on ne pouvait pas dire manifestement ce qu'on voulait. Derrière cette écriture riche en symboles, riche en métaphores, souvent desséchée, on vient de lire un poème de Montale tout à l'heure qui effectivement s'inscrit aussi, qui inspire énormément les poètes hermétiques, c'est-à-dire ces poètes font de la poésie une résistance, pas comme on peut l'imaginer aujourd'hui derrière les barricades, parce que quand on vit une époque de dictature, souvent c'est pas facile, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'écrivains d'ailleurs que sous le fascisme ils ne déclarent pas leur opposition clairement, même si les idées étaient antifascistes. Donc c'est un mouvement qui travaille sur la parole. Et la parole devient mesure éthique pour résister contre la barbarie du temps, hein, de ce temps. Donc, si Montale est repris, ça veut dire qu'on lui reconnaît effectivement dans sa poésie une valeur fortement de résilience, on dirait aujourd'hui, et une poésie qui met en place un système de valeurs humanistes. Et là, je pense que Montale, et donc je pense au poète hermétique Salvatore Quasimodo, par exemple, qui est un autre prix Nobel d'ailleurs, comme Montale, ou Alfonso Gatto, ou Leonardo Sinisgalli, il y en a beaucoup, hein, qui produisent jusqu'aux années 50-60, même si après cette charge hermétique s'éteint un peu. Voilà, donc je pense que c'est une figure effectivement qui a marqué non seulement au niveau poétique, mais même au niveau des idées.
Oui, et nous venons de parler de Eugenio Montale, qui avec son pessimisme a bouleversé l'imaginaire poétique de son temps. Et si Montale représente la nouveauté thématique dans la poésie italienne du siècle dernier, un autre poète a eu une importance, on pourrait dire, tout aussi décisive sur le plan formel. Je parle de Giuseppe Ungaretti, qui s'inscrive selon certains critiques dans les mouvements hermétiques, par exemple, et qui, en s'inspirant à des poètes français comme Stéphane Mallarmé, a complètement lui aussi bouleversé la versification traditionnelle avec son vers bref. Il y a un poème très célèbre pour ça, il s'appelle Mattina, il se compose de seulement deux vers, m'illumino d'immenso. Donc Flaviano, la leçon de Giuseppe Ungaretti, selon toi, a aussi frappant à l'époque, a-t-elle épuisé son élan ou non aujourd'hui? Parce que je te demande cela parce que il me semble que dans la poésie contemporaine, plutôt, il y a plutôt une tendance à la prose, à le vers long, c'est bien cela?
Oui, c'est vrai. Ungaretti a eu une réception différente par rapport à Montale. On le voit même dans les histoires littéraires qui sont proposées aujourd'hui en collège et en lycée. Il y a toujours un chapitre sur Montale qui est considéré classique. Et Ungaretti, il y a des paragraphes, mais il n'y a pas un chapitre consacré à Ungaretti. Donc ça, c'est très important de voir ça, parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la dictée poétique, appelons-la comme ça, d'Ungaretti, a été reçue différemment et peut-être a représenté, même s'il a, bon, pour moi, Ungaretti et Montale sont vraiment les pères de la poésie italienne contemporaine, pour des raisons différentes. Montale, c'est, il se tord contre i poeti laureati, donc il...
C'est-à-dire les poètes, voilà, un peu...
Qui font référence à D'Annunzio, oui. À cette figure du poète abate, du poète sacerdote, un peu, qui... alors que il y a l'autre ligne... qui est reprise, à mon sens, dans la poésie italienne contemporaine, c'est Pascoli, parce qu'on l'oublie des fois, Giovanni Pascoli. C'est-à-dire que lui, il traverse, il inspire beaucoup, mais il y a Gozzano aussi, quand on parle de Montale. Et donc, il y a quand même la traversée, disons que Ungaretti et Montale ont su traverser ceux qui, à leur tour, considérés comme pères. Parce que bon, il y a toujours un père si on va à l'arrière, oui. Et c'est très important. Alors qu'aujourd'hui, comme tu le disais, on tend plus, oui, si on regarde la poésie hyper contemporaine, on a ce besoin de plus de mots pour dire quelque chose.
Et la chose qui lie Giuseppe Ungaretti à ce que tu venais de dire tout à l'heure, c'est que Ungaretti, bah, il naît en Alexandrie d'Égypte, donc dans une famille italienne, mais en Égypte, il déménage à Paris pour ses études, donc le français c'est sa langue d'éducation, entre guillemets, de la culture, et bah, il rentre en Italie, il décide de participer à la guerre, il décide d'écrire en italien, alors qu'il est né en Égypte et il a fait les études en France. Donc Ungaretti est un peu le premier poète qui rentre dans cette, on peut pas dire groupe, mais dans cette mouvance de poètes qui choisissent l'italien pour écrire et pour s'exprimer.
Oui, c'est vrai, Ungaretti ouvre cette saison, si on veut, d'italophonie, surtout, mais ce n'est pas le seul, et voilà, je peux dire juste ça, parce que surtout dans le Maghreb, il y a trois villes cosmopolites de référence qui développent une italophonie très forte, et ces trois villes, c'est Tanger au Maroc, c'est Tunis en Tunisie et Alexandrie en Égypte, où effectivement se développe une forte italophonie déjà entre le 19e et le 20e siècle.
Nous développerons cette thématique dans les prochains quarts d'heure. L'ora Dante, c'est l'émission pour écouter et lire l'Italie.
Con l'amore è l'unico sentimento che ci fa battere il cuore.
Je suis Maria Antonietta Lenzi.
Je suis Francesco Terzi.
E noi lavoriamo al Centro Culturale Italiano Dante Alighieri.
E così non hai soprattutto parlato agli altri.
L'ora Dante.
Questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia.
Tutti i libri dont nous avons parlé sont disponibles dans notre bibliothèque au 25 rue Saint-Ursule, car le but de notre association est de promouvoir la langue et la culture italienne sur le territoire de Montpellier. Alors, venez nous rendre visite dans l'Écusson.
E sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai.